autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver en cette saison de rediffusion estivale pour nous intéresser à un drôle d'oiseau, mal aimé et trop souvent diabolisé, le corbeau, car c'est de lui qu'il s'agit. Nous ferait-il de l'ombre? La question mérite d'être posée. Au vu des récentes découvertes sur son intelligence, sa mémoire et ses fascinantes capacités cognitives qui en font l'égal des grands singes. Alors comment changer de regard sur ces oiseaux qui n'ont de malheur que le nom et qui nous réservent de fascinantes surprise, comme nous l'avions découvert ensemble avec nos invités. L'historien des couleurs et des animaux Michel Pastoureau, auteur d'une géniale histoire culturelle du corbeau, et l'éthologue Agatha Liévin-Bazin, youtubeuse de talent, spécialiste du comportement animal en général et des corvidés en particulier. Autour de la question, qui sont vraiment les corbeaux? Bienvenue pour sortir des clichés en tout genre véhiculés par le cinéma, les fabulistes et même le plus célèbre de nos naturalistes. Écoutez voir ce qu'en disait Buffon dans son Histoire naturelle, on peut difficilement faire pire.
Cet oiseau a été fameux dans tous les temps, mais sa réputation est encore plus mauvaise qu'elle n'est étendue. On l'a toujours regardé comme le dernier des oiseaux de proie et comme l'un des plus lâches et des plus dégoûtants. Les voiries infectes, les charognes pourries sont le fond de sa nourriture. On prétend même qu'il attaque quelquefois les grands animaux avec avantage et que, suppléant à la force qui lui manque par la ruse et l'agilité, il se cramponne sur le dos des buffles, les ronge tout vif et en détail après leur avoir crevé les yeux. Et ce qui rend cette férocité plus odieuse encore, c'est qu'elle est en lui, non l'effet de la nécessité, mais d'un appétit marquant une préférence pour la chair et le sang. Si aux traits sous lesquels nous venons de représenter le corbeau, on ajoute son plumage lugubre, son cri plus lugubre encore, son port ignoble, son regard farouche, tout son corps exhalant l'infection, on ne sera pas surpris que dans presque tous les temps, il ait été regardé comme un objet de dégoût et d'horreur.
Exécrable, carrément particulièrement sinistre et avilissant, ce portrait au vitriol du corbeau signé Buffon, dans son Histoire naturelle paru en 1774, on peut vraiment se demander pourquoi tant de haine, et c'est d'ailleurs ce que vous faites dans cette histoire culturelle du corbeau que vous venez de publier aux éditions du Seuil. Michel Pastoureau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous et avec les corbeaux, du côté des corbeaux, car l'historien que vous êtes, Michel Pastoureau, internationalement reconnu pour vos travaux sur l'histoire des couleurs, mais aussi sur l'histoire des animaux, le bestiaire du Moyen-Âge. Vous avez occupé pendant plus de 35 ans la chaire d'histoire de la symbolique occidentale à l'école pratique des hautes études et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages traduits dans le monde entier, donc sur les couleurs, mais aussi sur les animaux, de l'ours au loup, du cochon au taureau. Même si vous avez, on peut le dire, un petit faible, peut-être même un grand, pour les corbeaux. Alors pourquoi, Michel Pastoureau, c'est une double question, tant d'intérêt pour ce corvidé, mais aussi tant de haine depuis des siècles contre les corbeaux.
Oui, mon intérêt personnel remonte à la petite enfance. J'ai vu des corbeaux dans ma campagne normande et je me suis attaché à ces oiseaux qui peuvent devenir relativement familiers, qui sont toujours là, qui observent l'être humain. Le corbeau est peut-être l'animal qui connaît le mieux l'être humain. Et ça, on le sait depuis fort longtemps. Et puis, en tant qu'historien, c'est un des oiseaux, sinon l'oiseau le mieux documenté. On en parle constamment, soit pour le louer dans l'Antiquité, le vénérer même parfois, soit pour le rejeter avec notamment le christianisme. Buffon a cette haine du corbeau, comme il a la version de tous les animaux qu'il n'arrive pas à bien ranger dans sa propre classification. l'ours ou le cochon, par exemple, sont victimes de sa plume, qui est sans doute la plus belle plume de la prose française. Mm-hmm. Buffon est un immense écrivain, et ça en rajoute encore dans son discours sur le corbeau. On est vraiment du côté du très, très, très négatif. En tout cas, cet oiseau m'attire, m'occupe. Je travaille sur lui depuis presque un demi-siècle, et je suis content que ce livre puisse enfin paraître, même si j'ai dû me limiter pour rester dans les normes raisonnables de la collection.
En tout cas, il se dévore, ce livre, et je vous rappelle, chers amis auditeurs, auditeurs que nous en avons un exemplaire à vous offrir si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Il s'intitule Le Corbeau, une histoire naturelle. Alors on va aussi s'intéresser évidemment aux formidables capacités cognitives des corbeaux, à leur intelligence, à leur mémoire. Ça va être avec vous, Agathe Allier-Vimbazin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes éthologue, spécialiste du comportement animal. Votre thèse d'ailleurs en éthologie portait sur les comportements d'empathie et de partage chez deux espèces d'oiseaux, les perruches et le chouca des tours, donc un corvidé hein, de la grande famille qui inclut les corbeaux. Vous êtes aussi auteur de Société animale, ces animaux qui vivent ensemble, qui s'est paru aux éditions
Circonflexe,
voilà. Car vous êtes une éthologue qui veut faire passer sa science, l'éthologie en l'occurrence, l'étude du comportement animal au plus grand nombre, ce que vous faites avec brio sur votre site qui s'appelle Le Nid de Pie, et votre surnom sur Le Nid de Pie, c'est Agatha Magpie. On va vous appeler Agatha, alors. Hein. Et donc, il y a beaucoup à dire. Dieu sait qu'il y a beaucoup à dire sur le corbeau. Le diable aussi le sait, hein, qu'il y a beaucoup à dire sur le corbeau. Parce que, justement, c'est un animal qui a fait parler de lui. Mais l'éthologie, depuis quelques années, a mis en évidence des capacités cognitives extrêmement développées chez ces oiseaux-là. Une intelligence hors du commun, proche de celle, enfin au moins au niveau de celle des grands singes. Le corbeau a de quoi nous fasciner, Agatha.
Alors, tout à fait. Juste un tout petit point de précision, c'est vrai que dans corbeau, souvent, on met plusieurs espèces.
Ouais, ouais, ouais.
En France, on confond, enfin, en général, ce sont les oiseaux noirs de la famille des corvidés qu'on met dedans, mais en France métropolitaine, on peut en trouver trois espèces, qui sont donc le grand corbeau, qui est le corbeau vraiment associé, voilà, qui mangeait des pendus, tout ça. Le grand corbeau, qui est devenu très rare. Le corbeau freux, qui lui a pas du tout le même mode de vie que l'on trouve et qui se fait des ennemis chez les cultivateurs parce qu'il mange beaucoup de graines.
Ça, c'est le corbeau freux.
Le corbeau freux. Et la dernière, celle qu'on peut trouver dans les rues de Paris, qui est la corneille noire.
C'est la corneille noire qu'on trouve dans Paris et qu'on trouve dans les villes.
Exactement. Et il y a des études chez ces trois espèces qui ont des fonctionnements sociaux très différents. Les corbeaux freux vivent en très grands groupes, ce qui d'ailleurs souvent leur attire des soucis, parce que quand il y a 50 corbeaux qui nichent devant un immeuble, ça ne se passe pas toujours très bien.
Avec les humains.
C'est ça, avec les humains. Entre corbeaux, ça se passe bien, mais avec les humains, bof. Les grands corbeaux sont beaucoup plus en couple, en famille, comme les corneilles noires. Mais les trois espèces ont été testées et démontrent des capacités assez incroyables de mémoire. Ce sont des animaux qui ont tendance à cacher leur nourriture, et on a pu tester plein de choses sur le fait qu'ils sont capables de retrouver. La nourriture a été cachée, mais ils sont aussi capables de savoir quand ils sont observés ou non et d'adapter leur comportement en fonction. S'ils savent qu'ils sont observés, notamment chez les grands corbeaux, ils vont
observés par leur congénère.
Par un congénère. Ils vont cacher derrière un petit monticule pour ne pas être vus, ou alors ils vont attendre que le congénère s'en aille pour aller cacher, etc. Donc ce sont des capacités que l'on avait attribuées jusque-là aux grands singes, à l'être humain, qui sont des capacités de projection de ce que l'autre peut percevoir ou non, qui sont déjà des capacités assez complexes.
Très, très évoluées, et qui expliquent donc ce côté rusé, parce qu'on c'est ça en fait, quoi. Le corbeau, il est quoi? Très malin, très rusé? Ça, ce sont des qualificatifs très humains, hein, qu'on applique, mais c'est ce qu'on pourrait dire ou...
Ce sont des animaux, alors moi j'aime bien dire le fait qu'on peut qualifier d'intelligent, même si la définition d'intelligence est compliquée, hein, selon les espèces, et puis on compare toujours, et c'est intéressant aussi de voir qu'on part toujours de l'humain, et on essaye de trouver des capacités équivalentes chez les autres animaux. On ne devrait pas forcément faire comme ça, mais nous sommes humains avec nos défauts et nos biais.
Par rapport à nous, on considère un animal intelligent quand il a des capacités proches des nôtres.
Qui fait la même chose que nous.
Voilà.
Mais les corbeaux, pour ça, sont vraiment... on le découvre de plus en plus. Les études poussées sur la question datent du début des années 2000. Il y a eu des choses avant, bien sûr. Konrad Lorenz, dans les années 30, s'était pris d'amour pour les choucas. Mais notamment, il y a un gros labo à Vienne qui bosse là-dessus. Et tous les ans, il y a des découvertes incroyables sur leurs capacités.
Sur les capacités cognitives, sur l'intelligence des corbeaux, Michel Pastoureau, vous êtes d'accord avec ça? Et d'ailleurs, vous le dites hein, dans cet ouvrage sur le corbeau et son histoire culturelle, les capacités cognitives, l'intelligence du corbeau, avant d'être diabolisé hein, par les grands anciens dans l'Antiquité, et dans certains peuples du Nord, il est vénéré, il est admiré pour son intelligence.
Il est admiré, il est vénéré, il fait l'objet de cultes dans presque tout l'hémisphère nord. Tantôt il est présenté comme le messager des dieux, tantôt comme la tribu de tel ou tel dieu, tantôt comme le créateur du monde. Bref, il y a des cultes du corbeau un peu partout, non seulement en Europe, mais dans toute la Sibérie et dans l'Amérique du Nord. Et ce sont ces cultes qui ont irrité le christianisme à ses débuts. Il a fallu lutter contre. C'est probablement l'Église qui, la première, a fait descendre le corbeau de son trône et lui a collé cette étiquette de très mauvaise réputation qui est allée en s'accentuant au fil des siècles. Mais on ne trouve rien de tel chez les Grecs, chez les Romains, chez les Slaves, chez les anciens Germains et Scandinaves. Au contraire, on admire énormément le corbeau. Et pour ce qui est de ce que nous appelons l'intelligence animale, elle est déjà soulignée pour le corbeau par Aristote, par Théophraste et surtout par Pline, qui a une admiration, parce qu'une vénération pour cet oiseau. Il nous dit d'ailleurs que parmi tous les animaux dont on se sert pour la divination, le corbeau est le seul qui comprend les présages qu'il transmet à l'être humain.
Le lien entre l'âme et le corbeau, on y reviendra parce qu'il y a beaucoup de légendes aussi attachées au corbeau, mais il y a une diabolisation, vous le dites vous-même, Michel Pastoureau, par le Moyen-Âge, enfin par l'Église, véritablement, qui en fait un animal mauvais. Enfin, on a entendu Buffon, mais c'était vraiment... qui représentait de toute façon l'incarnation du mal, un oiseau de malheur, de mauvais augure.
Voilà, oui, c'est le christianisme qui part en guerre contre le corbeau. Il s'appuie sur la Bible et quelques passages célèbres, notamment celui de l'Arche de Noé. Le corbeau parti... envoyé par Noé, voir si les eaux du déluge se sont retirées, ne revient pas. Il préfère se repaître de cadavres plutôt que d'annoncer la bonne nouvelle. Ça lui donne une image de mauvais oiseau. Mais surtout, il est par trop vénéré par les païens, donc il faut absolument éradiquer ses cultes. C'est le propre de tout le haut Moyen-Âge, de même qu'on lutte contre les cultes de l'ours, qui durent assez longtemps, culte du loup, culte du corbeau. Ce sont d'ailleurs les trois vedettes, hein, ours, loup, corbeau, les trois vedettes du bestiaire européen. Chaque société a son bestiaire central, pourrait-on dire, construit autour d'un petit nombre d'espèces, des animaux qui jouent un rôle symbolique plus fort que tous les autres. En Europe, le trio de têtes, c'est vraiment l'ours, le loup et le corbeau.
On reste sur le corbeau aujourd'hui autour de la question « Qui sont-ils vraiment les corbeaux ?» Nouvel éclairage en forme de question du célèbre anthropologue Philippe Descola, professeur au Collège de France, qui a aussi une question pour vous, Michel Pastoureau, on l'écoute.
Le corbeau, c'est dans beaucoup de régions du monde la figure du décepteur. C'est-à-dire, c'est le personnage dans les mythes ou dans les histoires qui trompe. En Europe, c'est plutôt le renard. Mais ailleurs, le corbeau joue ce rôle-là, et parce que, effectivement, je pense que les humains se sont aperçus de sa capacité, de son intelligence, de façon évidente, un peu partout dans le monde. Et c'est intéressant de noter que cette capacité est perçue à peu près partout. Mais c'est seulement maintenant, depuis pas très longtemps, qu'on s'est aperçu qu'il avait aussi la capacité d'inventer beaucoup de gens s'en sont aperçus, mais que les éthologues ont découvert qu'il avait la capacité d'inventer des techniques et puis de transmettre des techniques aussi qui variaient, je pense aux corbeaux de Nouvelle-Calédonie, dont les techniques varient d'une vallée à l'autre. Donc c'est un des inventeurs de la culture. Donc c'est intéressant de voir dans le domaine culturel, le corbeau est vu comme le décepteur, mais qu'en même temps, c'est aussi un inventeur de la culture.
Philippe Descola, qui dit que le corbeau est à la fois décepteur et inventeur de culture. Michel Pastoureau, vous en pensez quoi ?
Oui, décepteur, c'est l'oiseau qui trompe, hein. C'est l'oiseau qui ruse, c'est l'oiseau qui fait semblant de cacher de la nourriture, observe comment les autres oiseaux se comportent en essayant de trouver cette nourriture alors qu'il n'y a rien, et on a l'impression que le corbeau pratique l'humour, qu'il se moque.
Il pratique l'humour et il nous fait de l'ombre, finalement. On se demande s'il ne nous fait pas de l'ombre, il y a peut-être de ça aussi.
A-t-il pour autant inventé la culture ? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. Moi, j'aurais tendance à dire que si on tire du côté animal, l'inventeur de la culture, c'est plutôt l'ours. Parce qu'il est possible que l'ours soit le premier qui ait enterré ses morts et qui ait été imité par l'être humain à des époques très très anciennes du Paléolithique. On peut en débattre, bien sûr. Ça ouvre des problèmes très très complexes. Le corbeau, c'est un animal culturel, peut-être avant d'être un animal naturel, en effet, dans beaucoup de sociétés.
C'est ça, il nous accompagne, il fait partie de nous. Et puis le corbeau, il nous ressemble par certains côtés. Hein. C'est bien pour ça que maintenant, on reconnaît à quel point il est intelligent. Agatha, le corbeau, il a une particularité aussi, c'est qu'il aime bien la chair fraîche, il aime bien la cervelle et le cerveau, c'est ça aussi. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a du mal avec cet animal-là.
Alors, c'est en général moins sanguinolent que ça. En fait, les corbeaux, donc comme je vous disais, les trois espèces qu'on
évoque. Les trois espèces, hein, oui.
En fait, et c'est aussi ça qui fait qu'ils ont un succès incroyable, c'est que ce sont des animaux extrêmement flexibles, adaptables, qui vivent partout. En fait, on les trouve... Les corvidés, bon, il y a plus de 120 espèces hein, sur la planète, mais on les trouve partout, sauf sur les globes et au Groenland. Sinon, il y a des corvidés partout sur la planète, ils mangent de tout. Alors, on retient l'appétit pour la charogne, parce que le fait est que ce sont des opportunistes, donc ils vont manger tout ce qu'ils vont trouver. Mais ils mangent aussi des criquets, des graines, des fruits, des animaux morts sur le bord de la route. Et d'ailleurs, leur rôle écologique est très important, parce qu'ils nous débarrassent des cadavres qui pourraient transmettre des maladies. Mais je pense que oui, cette idée de charogne, bon, comme vous le disiez, avec l'arche de Noé, le fait qu'ils préfèrent aller manger les cadavres plutôt que de ramener les informations. Et puis voilà, avec les pendus, le fait que les corbeaux se servaient. Mais finalement, selon les saisons, ils vont manger moins de viande qu'à d'autres, en fait. Et on parlait du corbeau freux. Le corbeau freux est presque végétarien. Il mange beaucoup de graines, de bourgeons, de feuilles. D'ailleurs, et c'est le cas aussi des corneilles à Paris. Si vous allez au Jardin des Plantes, les jardiniers râlent beaucoup après les corneilles parce qu'elles retournent la terre pour manger les vers ou manger les bourgeons.
C'est ça, parce qu'en fait, on a l'impression, on va y revenir, mais qu'à chaque fois, le corbeau, il nous irrite. Il nous irrite parce qu'il nous ressemble, parce qu'on se reconnaît un petit peu là-dedans, parce qu'il s'adapte partout et parce qu'il dérange finalement à la campagne comme à la ville. Il dérange un peu puisqu'il observe très bien l'humain, puisqu'il sait cacher la nourriture, puisqu'il est rusé, finalement, il nous dérange, le corbeau. Il nous dérangeait à la campagne, il nous dérange aujourd'hui en ville.
Parce qu'il nous connaît trop.
C'est ça.
Il nous connaît trop, il n'a pas de prédateurs, il n'a peur de rien, et surtout, il s'adapte à toutes les situations. Il sait changer son comportement quand il le faut. Il mange tout et n'importe quoi, en effet, il est vraiment omnivore. Il n'y a pas tellement d'animaux qui sont vraiment omnivores. Le corbeau en fait partie. On est presque gêné devant cet ensemble de propriétés qu'on ne retrouve chez pratiquement aucun autre animal.
Voilà pourquoi peut-être, autour de la question qui sont vraiment les corbeaux véhiculent aussi symboliquement, avec leurs couleurs, hein, cette image sombre de mort, de paysages dévastés, de guerre, d'où votre choix musical, Michel Pastoureau. C'est le chant des partisans, version Léo Ferré, sur RFI.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons. les barreaux des prisons pour nos frères.
Extrait du magnifique chant des partisans dans la voix de Léo Ferré sur RFI. Entends-tu le chant noir du corbeau ? C'est votre choix musical, Michel Pastoureau.
Oui, à cause du premier vers de la chanson, le premier mot presque prononcé, c'est corbeau, qui évoque dans la chanson, comme très souvent, la guerre, la misère, le froid, l'hiver, la révolte, le sang qui va couler. Le noir du plumage est associé au rouge du sang. Noir et rouge, c'est un couple de couleurs qu'on retrouve très très souvent du côté de la violence, du côté de la guerre, du côté de la mort.
Alors je reconnais là l'historien des couleurs que vous êtes, Michel Pastoureau, mais j'ai envie de faire appel aussi à vos connaissances linguistiques, parce qu'en français, le mot corbeau, il parle de ces animaux, de ces oiseaux, de ces corvidés, mais ça veut aussi dire un délateur, hein. Il y a le film de Clouseau, enfin quelqu'un qui écrit des lettres anonymes. Est-ce que dans d'autres langues aussi, enfin, est-ce que ce mot corbeau... Alors, il véhicule aussi du négatif dans le mot même.
Ce sens figuré, dénonciateur, auteur de lettres anonymes, ne date pas du film de 1943. Comme on le dit souvent, Clouseau n'a rien inventé. Ce sens figuré est, en français est très ancien. Il date au moins du XIVe siècle. Il est documenté dans le langage de la vénerie, et spécialement de la chasse au renard. Quand les veneurs ont perdu la piste du renard, ils n'ont qu'à lever la tête et ils voient le corbeau qui suit la chasse d'en haut et qui... peut-être volontairement, peut-être malgré lui, trahit la piste et indique au chasseur où se trouve le renard. Donc c'est un délateur, voulu ou non voulu.
Donc, et le corbeau et le renard déjà, tiens donc.
Ah oui, ils font couple. Et ils contrairement couple. À ce que dit la fable, oui. Le plus intelligent des deux n'est peut-être pas le renard.
Vous êtes d'accord avec ça, Agatha ? Le plus intelligent des deux n'est peut-être pas le renard, c'est probablement le corbeau. Qu'est-ce qu'on a découvert récemment, vous qui êtes éthologue sur les capacités des corbeaux.
Alors, tous les ans, on fait des découvertes qui repoussent un peu plus loin ce qu'on pense savoir de leur intelligence. Il y a quelques expériences un peu extraordinaires qui sont sorties il y a quelques années. Notamment, il y a une que je trouve assez impressionnante qui montre chez des grands corbeaux. Donc tout ça est en contexte de laboratoire, donc des animaux qui ont été élevés à la main, oui. Etc. Mais une expérience qui montre que l'animal peut prévoir l'avenir. C'est-à-dire que c'est une expérience où on leur donne le choix de sélectionner un objet qu'ils pourront échanger ou qui leur servira à activer un mécanisme. Et on leur propose d'attendre 15 minutes avant de pouvoir résoudre le problème, ou 17 heures. 17 heures, donc une nuit passe.
Wow.
Et en fait, les corbeaux sont capables... donc, ils ont appris à associer, bien sûr, l'outil dont ils ont besoin et l'objet.
Oui.
Mais ils sont capables de garder un objet, le garder 17 heures plus tard, pour ensuite obtenir une récompense.
Ah oui, donc alors là, ça veut dire vraiment une anticipation, une prévision, une vision du temps.
Et enfin, puis de se dire que ça pose aussi des questions au niveau du contrôle de soi, de est-ce que, parce qu'il y a aussi une autre expérience qui montre qu'il peut avoir une récompense tout de suite, mais une récompense bien meilleure, une croquette extraordinairement juteuse, s'ils attendent. Et ils en sont aussi capables. Ce qui sont des fois des capacités où nos cousins grands singes ne sont pas toujours aussi bons.
Exactement. Ah oui, donc parfois ils seraient même meilleurs que des grands singes.
Et puis ça veut dire qu'ils sont capables. Il y a une autre expérience avec des qui montrent qu'ils peuvent anticiper la vitesse à laquelle la nourriture qu'on leur a donnée va s'abîmer. Entre des noix, par exemple, enfin des cacahuètes, et des vers, par exemple, qui vont pourrir. Ils ne vont pas aller récupérer la même nourriture, même si c'est ce qu'ils préfèrent, parce qu'ils savent, je mets des guillemets
visuels.
Ils savent que ça ne sera plus bon et que ça ne vaut pas le coup d'y aller. Donc ils peuvent comme ça anticiper l'avenir, ce qui est quand même assez extraordinaire.
Extraordinaire corbeau que vous portez d'ailleurs sur votre jolie chemise blanche. Vous avez des petits corbeaux noirs. C'est très joli, Agatha, même si nos auditeurs ne le voient pas à la radio. Autour de la question, le corbeau nous ferait-il de l'ombre ? On continue de s'interroger sur sa mauvaise réputation qui persiste tout de même à travers des extraits de films, car les corbeaux, on le sait, ont beaucoup inspiré les cinéastes comme Hitchcock, évidemment, et pas seulement. On les retrouve aussi du côté de la sorcière maléfique dans La Belle au bois dormant et dans la saga du Seigneur des Anneaux. Ils sont toujours porteurs de mauvaises nouvelles. Mix signé Hugo Fiolas.
Je crois qu'en fait, c'était des corbeaux. Oui, des centaines, je te l'affirme. Oui, ils ont attaqué les enfants. Ils les ont attaqués.
Il n'y a rien à en tirer. Quel déshonneur au royaume des forces du mal. Et toi, tu es mon dernier espoir. Prends ton vol et va enquêter. cherche une jeune fille d'environ 16 ans, blonde comme le blé au soleil, aux lèvres comme un bouton de rose. Vole et ne me déçois pas.
Qu'est-ce que c'est?
C'est rien, c'est qu'un petit nuage.
Qui avance vite. Contre le vent.
Des crébins du pays de Dain.
Cachez-vous.
Mary, prends le sable, à couvert.
L'espion de Saruman. Le passage par le sud est surveillé. Il faut passer par le col de Caradhras.
Maître Corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Un fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée lui tâte à peu près ce langage. Ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ravage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Le phénix, vous êtes le phénix. Des hôtes de ces bois.
Bon, il n'y a pas de chance, hein. Maître Corbeau chez La Fontaine, cher Michel Pastoureau, il se laisse flatter bêtement par le renard. Or, en fait, comment se fait-il qu'on ait un peu inversé les rôles et que finalement ce corbeau que l'on redécouvre si intelligent aujourd'hui ait été si longtemps malmené, maltraité, mal aimé, et même là, comme dans le cas présent, comme chez La Fontaine, c'est le renard qui est bien plus rusé que lui, ou alors totalement diabolisé, méchant chez Hitchcock, et capable des pires, choses.
Parce que justement, il est trop intelligent, donc il faut trouver des moyens de le rendre stupide, et la fable est un de ces moyens, c'est une façon de faire soupape, c'est d'ailleurs souvent le rôle des fables. Il y a quand même plusieurs auteurs antiques puis du Moyen-Âge qui soulignent qu'en fait le corbeau n'est pas du tout victime du renard parce qu'il savait très bien que le fromage était empoisonné. Et c'est pour ça qu'il a lâché le fromage. On trouve la même histoire dans la légende de Saint-Benoît où un corbeau empêche Benoît de manger un pain empoisonné. Alors dans le film d'Hitchcock, qui est terrifiant, notamment
les oiseaux.
Quand les oiseaux, quand les enfants sortent de l'école, c'est une des scènes les plus terribles de toute l'histoire du cinéma, mais le film est tiré d'une nouvelle de Daphné du Maurier qui s'appelle Birds, comme le film, 1952, si je me souviens bien. C'est pire. La nouvelle est absolument effrayante. C'est une des choses les plus effrayantes que j'ai lues dans ma vie. Birds, c'est assez court. Ce sont des corbeaux qui attaquent quelque part en Cornouailles et aucune explication n'est donnée. C'est absolument terrifiant.
Parce qu'au fond, peut-être qu'il y a aussi un pressentiment de l'intelligence de ces oiseaux-là, de ces corbeaux, qui pourraient nous surpasser. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça.
Qu'en pensez-vous, Michel Pastoureau ? Il y a cette méfiance envers, en effet, les corbeaux qui pourraient devenir les maîtres du monde. Ils l'ont peut-être été, d'ailleurs, dans des temps extrêmement anciens. En tout cas, les Celtes, les Germains, les Slaves place souvent un ou plusieurs corbeaux à l'origine de la création du monde. Ce sont des démiurges. Il ne faudrait pas que ça recommence.
Et il y a aussi toujours un lien, vous le soulignez aussi en préparant cette émission, Agatha, sur le lien qui se fait entre l'âme, messager de l'âme et les corbeaux.
C'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a un lien. Là, je pars un petit peu sur des théories, mais par exemple, vu que c'est un animal qui se nourrit des morts, on peut lui attribuer cette fonction qu'on appelle psychopompe, où on accompagne les âmes dans l'au-delà. Mm-hmm. C'est vrai qu'il s'y prête très bien, mais il y a un petit peu ça chez les Celtes, je crois, avec les Morrigan, Babd, etc., sur les champs de bataille, où les corbeaux, les corneilles guident les guerriers au combat, et on peut se dire qu'il y a cette espèce de pont comme ça entre les morts au combat et la suite. Mais il y a aussi surtout cette idée de messager et de devin. C'est vrai que dans les oracles, c'est ce que vous disiez, le corbeau permet de prédire l'issue du conflit, finalement.
Et quand on sait qu'aujourd'hui, les éthologues disent qu'il est capable de prévoir l'avenir ou de ressentir l'avenir, on se dit, autour de la question qui sont vraiment les corbeaux, on se dit que leur intelligence a de quoi nous fasciner. Je propose précisément à ce sujet un nouvel éclairage, celui de l'éminent neuroscientifique Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, internationalement reconnu pour ses recherches et découvertes sur le cerveau et sur la conscience. Il était récemment notre invité autour de son dernier ouvrage, Face à face avec son cerveau, et lui aussi est fasciné par l'intelligence et les capacités cognitives de la grande famille des corvidés, et plus particulièrement des corbeaux.
Je connais très bien un des chercheurs, Andreas Nieder, qui travaille à Tübingen sur le cerveau et les enregistrements neuronaux chez les corvidés. Et c'est absolument extraordinaire. Ce chercheur a commencé par travailler chez les singes macaques et a montré que, comme chez l'homme, il y a des neurones qui codent pour les nombres. Et il y a une aire spécialisée pour les nombres et les singes macaques ont des neurones qui sont sensibles à un objet, deux objets, trois objets. Et alors, il a ensuite découvert que chez les corvidés, c'était la même chose. Il y a des populations de neurones qui ont exactement les mêmes caractéristiques que chez le singe macaque. Et on peut dire quelque part, sur le plan de l'arithmétique approximative, ils sont aussi intelligents que ne sont les singes macaques. Et il a étendu ce travail pour montrer qu'il pouvait coder non seulement des nombres d'objets présents, mais même le nombre zéro, c'est-à-dire l'absence d'objets, alors qu'on s'attend à en voir dans un ensemble. C'est vraiment une forme de représentation mentale très abstraite, puisque c'est indépendant de la nature des objets qui sont présents, du fait qu'ils soient présentés simultanément ou séquentiellement. Ces animaux ont un sens du nombre. Il y a donc un sens des nombres qui est beaucoup plus étendu dans la nature qu'on ne pouvait le penser. C'est probablement une évolution indépendante dans des espèces aussi distantes, hein, sur le plan évolutif. Et ça souligne qu'il est très utile pour des animaux de comprendre le nombre, d'être capable de déterminer combien il y a de congénères autour d'eux, ou aussi combien il y a de sources de nourriture, combien il y a de fruits, par exemple, dans un arbre, et de choisir le plus grand lorsqu'il s'agit de trouver de la nourriture. On ne le sait pas vraiment, mais on sait que le cerveau du corbeau est quand même organisé très différemment du cerveau des mammifères. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que la même fonction est plus ou moins le même circuit, si on regarde quel neurone est connecté à quel autre, se retrouve organisé dans l'espace de façon incroyablement différente. Il n'y a pas vraiment le cortex préfrontal, comme on peut le voir chez les mammifères, mais il y a des systèmes neuronaux qui reproduisent plus ou moins la même fonction chez les corvidés.
Agatha Liévin-Bazin, vous qui êtes éthologue, qui avez beaucoup travaillé sur les oiseaux, j'imagine que vous voulez réagir au propos du professeur Stanislas Dehaene et nous aider peut-être à comprendre comment fonctionne l'intelligence, alors des corbeaux en particulier, des corvidés en général, des oiseaux qui n'ont pas un cortex préfrontal, un cerveau comme le nôtre, mais d'autres formes de sacrée intelligence.
Alors, c'est vrai que, en fait, pendant longtemps, on a pensé que les oiseaux ne pouvaient pas être aussi intelligents que les mammifères parce qu'on ne retrouvait pas les mêmes zones. En effet, il n'y a pas de néocortex pour la simple et bonne raison que le cerveau des oiseaux est lisse. Il n'y a pas de circonvolution, de repli comme le cerveau des mammifères. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, il était organisé très différemment, sans doute pour une raison tout à fait valable, qui est celle qu'un oiseau ne peut pas se permettre d'avoir un cerveau trop lourd. Il vole. Exactement. Donc on s'est rendu compte, et c'est notamment, il y a un papier qui est sorti là, c'était 2013-2014, qui a montré que la densité neuronale, le nombre de neurones par gramme de cerveau dans certaines zones du cerveau des oiseaux, était supérieur, parfois, à ce qu'on trouvait chez des singes, comme par exemple le singe sapajou. Un perroquet ou un corbeau a plus de neurones dans une même zone du cerveau qu'un primate de taille équivalente, ou qui ont même des cerveaux plus gros, parce qu'en fait, ils sont ultra connectés, ils sont organisés différemment. Et voilà, le fait est qu'il y a eu, je ne sais plus, 30-40 espèces qui ont été testées, et les corbeaux et les perroquets étaient largement en tête. Et c'est assez impressionnant.
Pour la capacité de leur cerveau. Donc, c'est vraiment pas des cervelles d'oiseaux. Hein. C'est
totalement,
ridicule de
totalement,
dire ça.
Oui, complètement.
En et fait, c'est pas la taille qui fait le
alors,
le cerveau,
c'est un peu compliqué. Ouais, là, en gros, ouais. C'est un nombre de neurones par gramme, où le nombre de neurones est vraiment très, très important. Ils sont très concentrés, ils sont vraiment connectés différemment. Mais on se rend compte qu'il y a aussi des corrélations, des liens entre la taille du cerveau par rapport à la taille du corps et que, voilà, corbeaux, perroquets ont un très gros cerveau par rapport à la taille de leur corps.
Voilà ce qu'on sait aujourd'hui autour des corbeaux, des corvidés. Alors, dans les oiseaux, puisqu'on est là dans les oiseaux en général, il y en a d'autres qui ont mauvaise réputation. Il y a par exemple les pies qui ont très mauvaise réputation. Et là encore, on est quoi ? On est dans des clichés, dans des choses fausses, des erreurs d'interprétation.
Mais les pies qui font aussi partie de la famille des corvidés, qui ne sont pas éloignées des corbeaux finalement.
Voilà, donc en fait, dans la famille des corvidés, il y a tous les corbeaux dont vous nous avez parlé, mais il y a aussi les pies.
Les pies, les geais, on a aussi, il est moins connu, le casse-noix. Et pour ceux qui sont plus dans les hauteurs, on a aussi le crave, le chocard. Mais il y a plein d'espèces. Par exemple, en Afrique subsaharienne, il y a le corbeau corbivo, qui est l'équivalent.
Le corbeau corbivo.
Ouais, qui est le plus grand des corbeaux et qui fait 1,50 m d'envergure. Donc c'est pas un petit rigolo. Non, il y a plein d'espèces, mais c'est vrai que la pie, que moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un très bel oiseau. On parlait, Buffon disait qu'ils avaient des plumes très moches, mais quand on regarde une pie ou même un corbeau freux de tout près, leurs plumes sont iridescentes, ils sont jolis. Il y a un peu de vert, il y a un peu de turquoise, ce sont des beaux oiseaux. Et la pie, mais les corbeaux, les choucas, les corbeaux freux, dans des encyclopédies même des années 50-60, c'est marqué toujours que ce sont des voleurs, qu'ils sont attirés par ce qui brille et qu'ils piquent des choses. Et c'est une idée reçue. En fait, il y a une équipe anglaise qui a voulu le tester, qui a pris des pies sauvages et en captivité, qui leur ont mis des objets brillants, des écrous, des vis, qu'ils ont soit teintés de peinture pour qu'elles soient opaques, soit qu'ils ont laissées telles quelles. Et ils ont mis plein de nourriture pour voir si elles venaient. Et en fait, le résultat, c'est que ces oiseaux, comme tous les oiseaux de la famille des corvidés, sont néophobiques. Ils ont peur de tout ce qui est nouveau.
Et néophobiques. Ah, ils ont peur de ce qui est nouveau.
Oui, parce qu'il faut quand même qu'ils sont futés, mais ils sont prudents. Donc les choses nouvelles dans leur environnement, il leur faut un peu de temps pour aller les voir. Et en fait, aucune pie n'est allée voir les boulons et ça leur faisait peur, ça ne les intéressait pas du tout. Et
là encore, on peut se demander, je me tourne vers vous, Michel Pastoureau, comment se fait-il qu'on pense que les pies sont des voleuses et qu'elles courent après tout ce qui brille ? Est-ce qu'on a tendance, là encore, à plaquer peut-être nos propres défauts sur ces oiseaux-là, sur ces corvidés ?
Ce n'est pas tellement ancien l'idée que la pie est voleuse. On n'en trouve pas beaucoup de traces au Moyen-Âge, mais ça commence avec la Renaissance, pour des raisons qui ne sont pas très claires. L'attirer par tout ce qui brille, c'est aussi quelque chose qui vient plutôt de l'autruche ou d'autres oiseaux, qui n'est pas propre à la pie à l'origine. Il y a notamment l'idée, qui est déjà là dans l'Antiquité, que l'autruche peut manger tout et n'importe quoi, notamment du métal. Et alors, dans les images médiévales, on représente l'autruche ayant dans le bec soit un clou, soit un fer à cheval, soit un anneau métallique. C'est l'attribut qui permet d'ailleurs de le reconnaître, puisque du point de vue formel, rien ne distingue une autruche d'une cigogne, d'une grue, etc. Donc il faut qu'il y ait des attributs.
Voilà. Donc tout ça, ce sont des histoires culturelles et symboliques. Symbolique et pas du tout naturelle.
Non, bien sûr, mais l'histoire culturelle, ça existe. L'histoire naturelle, ça n'est pas stable. Hein, dans deux ou trois siècles, ce que nous croyons aujourd'hui dans tel ou tel domaine, ça fera sourire nos successeurs. Il ne peut pas en être autrement, ça a toujours été comme ça.
Donc attention aux idées reçues. Alors revenons à la question des corbeaux et des corvidés en général et arrêtons-nous peut-être sur leur vie sexuelle, sentimentale, familiale, avec une nouvelle question pour vous, soulevée par un professeur de chimie, Marcel Hibert, mais de chimie amoureuse, pourrait-on dire, puisqu'il est spécialiste de l'ocytocine, de l'étude de cette molécule, de cette hormone de l'attachement. Marcel Hibert, auteur de « Ocytocine, mon amour », vous interroge sur les corbeaux.
Les oiseaux ont été un objet d'étude intéressant sur la monogamie. Il y a des oiseaux qui sont notablement monogames, hein, des perruches ou des choses comme ça. Et là aussi, les taux d'oxytocine sont extrêmement élevés. Plus il y a d'oxytocine, plus la monogamie est forte. Voilà. Alors, qu'en est-il des corbeaux ? Je ne sais pas s'ils sont monogames ou polygames. Il pourra peut-être nous renseigner là-dessus. Et bons parents, mauvais parents, voilà, je ne sais pas. Donc, il peut nous éclairer sur le comportement parental des corbeaux.
Agatha Liévin-Bazin, éclairez-nous sur le comportement sexuel, sentimental et parental des corbeaux.
Alors, on reparlait, hein, j'essaie de mélanger un peu les trois espèces, même si elles ne sont pas tout à fait pareilles, mais c'est une des grandes forces des corvidés, c'est qu'ils forment des couples monogames, souvent fidèles à vie. Ce qui fait
à
que
la plupart d'entre eux vivent longtemps.
Ils vivent longtemps. Alors, on estime que les petits, les choucas, etc., c'est 15 ans quand ils ne sont pas grignotés, mais les grands corbeaux. En nature, 20-25 ans, et puis en captivité, plutôt le double. Donc, selon les sources, il y a même des gens qui attestent qu'il y a des grands corbeaux qui ont vécu 80 ans, la durée d'une vie humaine. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, parce que, bien sûr, on n'a pas beaucoup de données là-dessus, mais
En tout cas, sur une longue, sur plusieurs dizaines d'années, ils restent monogames et fidèles.
Et en fait, ils se mettent en couple en général très tôt, avant même d'être matures. En général, ils sont matures à 3-4 ans. Ça, c'est aussi intéressant chez Corvidés, c'est qu'ils sont adultes tard. Ce qui laisse le temps de plein d'expériences sociales, d'apprentissage avec les parents. Ils restent longtemps avec leurs parents. Plusieurs mois, en général, après, parce que ça grandit très vite un petit oiseau. En général, en un mois et demi, deux mois, ils sont plumés, ils sont prêts à partir. Mais ils restent avec leurs parents. Et chez les grands corbeaux, il y a une étude notamment qui vient de sortir d'une postdoc française, Palmyre Boucherie, qui a étudié, qui a récupéré plein de données sur 40 ans de la vie des grands corbeaux. Et en fait, on s'est rendu compte que les petits restaient 3-4 mois avec les parents et qu'ensuite, en fait, ils allaient avec des groupes d'adolescents de 3 à 10 ans avant de se mettre en couple.
Wow,
et en
donc il y a de l'adolescence chez les corbeaux.
Il y a de l'adolescence et surtout, ce qui est vraiment ce qui est passionnant, c'est que ils ont le temps d'interagir avec plein d'individus différents. Et cette complexité sociale, le fait d'interagir avec des congénères, des inconnus, parce que la majorité des corvidés ont aussi un système social très particulier qu'on appelle fission-fission, c'est-à-dire qu'ils se regroupent le soir pour dormir au même endroit. Et ensuite, il y a plein de petites unités, souvent des couples ou des familles qui s'explosent et qui se réunissent. Et les associations ne sont pas les mêmes selon la saison, le moment de la journée. Et ça demande de réfléchir à qui est qui, quelles sont les interactions, etc. Et c'est une des théories qui expliquerait la grande intelligence de ces animaux, parce que cette complexité sociale les pousserait à réfléchir à plein de choses.
Une grande complexité, hein. Au fond, on ne fait qu'aborder le continent de l'intelligence des corvidés. Et pour ce faire, votre choix musical, Agathe Allier-Verbazin, c'est le groupe Slade, avec un morceau de circonstances, Raven, ça veut dire corbeau, hein.
Grand corbeau.
Grand corbeau sur LFI.
Tell Raven that it's fatal chasing everything that glitters. Color beads are shining ring, doesn't miss a single thing. Go on the silver polish, don't ever leave a thing alone. Wings and call it loudly. Don't care where others feel things. He had the right to steal gold and silver polish. Don't ever leave a thing alone. Bounce on it every hour. Flies to his lofty tower. Storing his bottles of the fruits of his toils. Keeping well inside a roundabout fight.
Sur RFI, merci pour ce choix musical rock'n'roll. Raven, le nom du grand corbeau, même si eux aussi, ils tombent dans le piège du grand corbeau voleur attiré par les objets qui brillent. Or, vous nous avez bien expliqué, Agathe Allier-Verbazin, l'éthologue que vous êtes, nous a expliqué que ce n'était pas vrai, que les corbeaux ne couraient pas après les choses qui brillent, après tout ce qui brille, mais qu'ils sont bougrement intelligents. On le découvre aussi avec l'historien des animaux Michel Pastoureau qui vient de publier au Seuil Le Corbeau, une histoire culturelle. Avec tout de suite une dernière petite question à rebours. Ils sont si intelligents, les corbeaux, mais est-ce qu'ils ont tout bon, partout, tout le temps? Question soulevée par un autre éthologue, Michel Kreutzer, on l'écoute.
Les corvidés ont, depuis très longtemps, été considérés comme des animaux qui auraient une intelligence supérieure, notamment au reste des oiseaux. Pas de tête de linotte chez les corvidés. Mais comment se fait-il que ces oiseaux, qui auraient une intelligence supérieure, n'aient pas développé dans le domaine acoustique des chants comme les passereaux ont pu en développer, chants qui nécessitent des apprentissages très complexes et en même temps qui sont considérés parfois comme des compétences musicales. Alors les corvidés, très intelligents, auraient un manque de ce côté-là ?
qui veut répondre. Peut-être Agatha Liévin-Bazin sur...
Ça me fait plaisir de répondre à Michel. C'est sûr que c'est
Michel
moins...
Michel Crozier qui a été votre,
qui
votre
était,
professeur.
Il était dans mon ancien laboratoire de thèse. Et c'est sûr, lui, il travaille sur le canari. Donc c'est plus mélodieux que le cri du grand corbeau ou du corbeau freux. Mais en fait, même s'ils n'ont pas de chant très mélodieux, ce qui est certain, c'est qu'ils apprennent et ils savent produire une quantité de sons incroyable. Et on est très très loin d'en comprendre toute la complexité. Je sais qu'à Strasbourg, Valérie Dufour a travaillé là-dessus, sur le corbeau freux, qui sont des animaux très sociaux, comme on disait, qui forment ces très grands groupes, des fois de plusieurs centaines d'individus. Et on s'est rendu compte que chaque individu, des fois, avait des cris qui lui étaient propres, que les autres individus n'avaient pas, et qu'ils avaient des mots pour s'appeler, enfin des mots, des cris, oui, mais oui. Qui avaient des significations vraiment très précises.
Une vraie communication complexe.
Complètement. Et il y a une autre expérience assez extraordinaire qui a montré que les grands corbeaux, même quand ils étaient séparés depuis plus de 3 ans, reconnaissaient le son de congénères qu'ils avaient côtoyés 3 ans auparavant. Et chose encore plus forte, ils réagissaient différemment si c'était des congénères avec lesquels ils avaient un lien d'affinité, si c'était des copains, ou si c'était les voisins avec qui ils n'avaient pas de lien particulier. Et ils répondaient avec des cris différents, 3 ans après, au cri d'un autre corbeau.
Bah, ils sont plus forts que nous, les corbeaux, Michel Pastoureau.
Oui, ce qui est mélodieux, harmonieux, c'est culturel. Hein.
Pour eux, les croix, les croissements...
C'est peut-être magnifique pour un corbeau et le chant du rossignol abominable. Il faut relativiser. En outre, déjà les auteurs anciens, Pline encore une fois, soulignent qu'on peut distinguer un nombre d'inflexions dans la voix du corbeau considérable. Il en énumère une 60, mais il dit qu'on peut aller plus loin.
La voix du corbeau, finalement, c'est la voix.
Le corbeau, c'est un plumage et une voix. Et cette voix, on l'interprète, elle dit des choses qui concernent l'avenir. C'est de l'ordre de la menace ou c'est de l'ordre de l'annonciation. Bien sûr, nous raisonnons en humain. Alors, le cri du corbeau, interprété en latin comme demain, demain, crasse, crasse.
C'est ça.
L'adverbe crasse veut dire demain en latin. Donc, notre mot procrastination a un rapport avec cette famille de mots. Ça n'a pas grand rapport avec le corbeau, mais c'est le fait de reporter à demain. Crasse, une décision que l'on doit prendre, un péché que l'on doit confesser, etc.
Et voilà encore ce qu'on a mis sur le dos du pauvre corbeau ou du si intelligent corbeau. Pour terminer, Michel Pastoureau, qu'est-ce qui vous fascine le plus chez ce corbeau auquel vous venez consacrer une histoire culturelle?
On l'a dit tous les deux, tout au long de cette émission. Ça n'est pas un oiseau comme les autres. Évidemment, moi, je pratique l'histoire culturelle, donc je ne distingue pas trop corbeau, corneille, freux, chouka, etc. D'ailleurs, pour beaucoup d'auteurs, la corneille, c'est la femelle du corbeau. L'idée qu'il y a des corbeaux femelles et des corneilles mâles, ça fait bizarre. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est le fait qu'il est fascinant. À ce point, l'être humain, dans une large partie, en tout cas de l'hémisphère nord, et que ça dure depuis des millénaires. Il n'y a pas de raison que ça cesse.
Pas de raison que ça cesse, d'autant que les découvertes d'éthologues comme vous, Agatha Liévin-Bazin, ça va continuer. Vous attendez quoi encore jusqu'où vont nous entraîner les corbeaux? Vous avez une idée? Et les corvidés?
Ils ont déjà révolutionné un peu la manière dont on voyait les animaux au début des années 90. On a découvert que les fameuses corneilles de Calédonie savent utiliser des outils, ce qui est rare. On est que longtemps, on a pensé être l'apanage de l'être humain. Moi, je ne serais surprise de rien. Je pense qu'ils sont capables d'à peu près tout.
Merci beaucoup d'être venu en direct, changer notre regard sur les corbeaux. Merci à Agathe Liévin-Bazin. Je renvoie sur votre site le nid de Pie. Le lien est bien sûr sur notre page. Merci Michel Pastoureau d'avoir été dans notre studio en direct. Je renvoie nos auditeurs sur votre dernier ouvrage, Le Corbeau, une histoire culturelle, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. À bientôt avec ou sans corbeau. Avec, bien sûr. Au autour de la question en rediffusion estivale et avec le sourire. En plus, demain, c'est à nos sourires que nous nous intéresserons. Autour de la question que disent de nous nos sourires, réponse spirituelle et inspirante de la philosophe Marie-Françoise Salles. À suivre demain avec Hugo Violas à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à notre podcast disponible sur toutes vos plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Merci pour votre curiosité, chers amis auditrices et auditeurs. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure de retrouver les informations.